Vous êtes dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. Merci d'être à l'écoute. On est en fin de journée, la fin d'émission approche. C'est le moment de passer à l'interview du jour. Je m'entretiens aujourd'hui avec Jean-Christophe Leblond, architecte et spécialiste des questions d'aménagement du territoire. Nous parlons de la ville. Qu'est-ce qui arrive à nos villes? Sont-elles en santé? Sont-elles bien planifiées? Phénomène observe-t-on dernièrement? Jean-Christophe veut nous parler d'un thème de recherche, d'une voie de recherche qui s'appelle Notopia. Bonjour Jean-Christophe.
Oui, bonjour Alexis. Alors, le prestigieux magazine d'architecture mensuel britannique Architectural Review a consacré deux numéros au phénomène de ce qu'ils appellent la Notopia, qui veut dire la non-topie, qu'ils opposent à utopie. L'utopie est un lieu idéal et imaginaire qui est hors de la réalité, tandis que la non-topie, c'est la transformation de lieux en non-lieux, c'est-à-dire la dématérialisation, si on veut, des villes en tant que lieu de vie réel.
Donc, topos signifie lieu en grec, bien sûr, donc non-topos, non-topie. C'est encore abstrait. Qu'est-ce que ça veut dire?
Concrètement, en fait, ce que ça veut dire, c'est que on s'aperçoit de plus en plus que l'architecture devient complètement indifférenciée d'une ville à l'autre, que ce soit la périphérie de Bombay ou le centre-ville de Singapour ou de Dallas. Toutes les architectures en viennent à se ressembler, à se fusionner en une espèce de tout mondial qui est fait de plaque au plâtre et d'air climatisé. D'autre part, autre phénomène réel qui affecte, entre autres, beaucoup la côte ouest en ce moment, le fait que les villes soient devenues une espèce de manifestation de la spéculation immobilière et des mouvements du capital incontrôlés, et que la ville est devenue une construction qui est là pour servir d'abord ces investissements-là plutôt que les communautés qui les habitent.
Et le vivre ensemble. Donc,
Le vivre ensemble. Et non pas l'architecture a comme été découplée de la fonction sociale.
Et c'est ça. Donc, on a bien sûr tous les deux abordé la question de la surenchère immobilière qui sévit à Vancouver. On a parlé de tous ces immeubles qui sont comme considérés par les investisseurs comme des lingots, des blocs d'actifs et non comme justement des lieux de vie et d'échanges sociétal. Donc, la Notopie justement déplore ces développements récents, ces développements-là.
Oui, et en même temps, c'est que plutôt que de voir la nature du vrai problème, à savoir que les communautés qui ont créé l'ambiance, l'atmosphère et l'identité unique de tant de villes à travers le monde, fait que il peut y avoir des centaines de villes qui ont toutes leurs raisons d'être et leurs valeurs parce qu'elles ont cette identité, cette atmosphère, ces qualités qui leur sont propres et qui ont été construites par leur population, la communauté qu'elles ont créée, sont en train de se désagréger. Et puis, au même moment, nos gouvernements et nos investisseurs, nos grands investisseurs, promoteurs, semblent penser que de construire plus de bâtiments aux formes éclatantes, des tours toujours plus hautes et plus éclairées, résoudra le problème de s'assurer que leur ville reste distincte et reste... l'image de marque de la ville soit conservée alors que leur substance même est en train de se déliter.
Mais que fera l'UNESCO dans 100 ans quand elle devra choisir des sites architecturaux et urbains uniques? Elle va avoir de la difficulté puisque tout sera pareil?
C'est une très bonne question. En effet, l'architecte néerlandais Rem Koolhaas, qui est probablement le plus grand architecte qui pratique actuellement, aussi bien au niveau de ses réalisations que de ses réflexions théoriques sur l'architecture, fait remarquer que En ce début de 21e siècle, on a construit plus qu'à n'importe quelle autre époque
précédente,
depuis les origines de l'humanité. Mais pourtant que la qualité de ce qu'on a construit est parfaitement médiocre. Et donc, faut voir quel pourcentage de ça va résister au temps.
Oui, parce que là, on a un problème d'uniformité, donc de fadeur. Et est-ce que cet article paru dans la prestigieuse revue Architectural Digest propose des voies de solution ou entrevoit des développements positifs qui pourraient permettre d'échapper à ce phénomène?
Ben, en fait, c'est que les solutions ne sont pas si complexes ou difficiles. C'est juste qu'il faut accepter de confronter de reconnaître le problème. Et le problème, c'est que beaucoup de nos politiciens n'ont pas nécessairement l'envie ou l'intérêt de mettre des bâtons dans les roues du flot des investissements. Des fois, il y a des conflits d'intérêts, par exemple. Et c'est une espèce de façon de penser qui est à revoir, mais je veux dire, les solutions, on les connaît. On a certaines qui ont déjà commencé à être appliquées face à la crise, comme à Vancouver, où le gouvernement de Colombie-Britannique a finalement décidé d'imposer une taxe sur l'achat d'immeubles par des non-résidents. La ville de Vancouver qui a l'intention de taxer les logements qui sont vides. Ça, c'est le genre de mesures concrètes qui sont nécessaires, c'est-à-dire de se rendre compte que l'économie doit être dirigée pour qu'elle soit au service de la communauté, parce que l'économie seule, sans aucune attache dans la réalité, crée sa propre réalité, en fait, qui est complètement virtuelle.
Donc, ces mesures-là sont bienvenues, bien sûr. Elles vont peut-être permettre de calmer un petit peu la surchauffe qui ébranle le marché de l'immobilier sur Vancouver et notamment sur le plan locatif, ce qui touche beaucoup les chômeurs, les étudiants, les personnes âgées, etc., les monoparentales. Mais on va continuer quand même de bâtir ces immeubles uniformes qui sont pareils comme les Starbucks et les McDonald's de Hong Kong et de l'État de l'Ohio, par exemple.
Très bon parallèle. C'est exactement ça.
Donc, ce problème de l'uniformité est au cœur du terme Notopia, non?
Oui, exactement. C'est la dissolution du lieu et la dissolution de la communauté qui habite le lieu. Et vraiment, ce que propose, l'éditrice de ce mensuel, c'est qu'il faut recommencer à pratiquer la planification urbaine en fonction de la communauté. Déjà, l'Europe, par exemple, est en avance sur l'Amérique du Nord là-dessus, parce qu'ici, de façon générale, la compréhension qu'on a du développement urbain, c'est que c'est le secteur privé qui propose des projets, alors que dans des pays comme les Pays-Bas ou la France, par exemple, il y a quand même une façon de faire bien implantée où ce sont les pouvoirs publics qui définissent les projets de développement. Et ensuite, c'est le secteur privé qui les réalise, mais selon le schéma qui a été le plan d'ensemble qui a été défini par le secteur public. En fait, le projet de développement lui-même a été défini par le secteur public.
Par des élus et des gouvernements qui ont reçu leur mandat de la population, finalement, donc de la société
qui vont
civile.
Faire appel à des concours d'architecture, par exemple, pour développer des nouveaux quartiers ou pour redévelopper des zones urbaines.
Donc, il y a un espoir contre cette mauvaise herbe de la notopia, si tu me passes l'expression. Est-ce qu'il y a des cas de figure, des exemples qui peuvent servir de modèle aux Nord-Américains et à tous ces promoteurs de par le monde qui veulent reproduire comme on clone les immeubles identiques à toutes les latitudes, finalement? Est-ce qu'il y a des modèles?
Écoute, je pense que les modèles sont en train de se développer. C'est un fléau quand même. Disons que la conscience du fléau est récente. Et donc, oui. La réaction est en train de se construire, si on veut. Par exemple, par cet appel du Architectural Review et des petits gestes locaux, mais qui restent encore... J'imagine que ça va prendre de l'ampleur. Donc, des vrais exemples complets qui sont déjà source d'inspiration, pour l'instant, je n'en connais pas.
Mais si on en trouve au Canada, on les regardera à la loupe dans une prochaine conversation, si tu le veux bien, Jean-Christophe. Ce serait formidable. Donc, merci de nous avoir attiré l'attention sur cet article paru dans Architectural Digest. C'est bien ça? Review?
Architectural Review.
Review, oui. Pardon. On trouve ce papier facilement sur Internet?
Oui, ben il y a le site de la compagnie, de la pas de la compagnie, mais
du média,
de la publication sur Internet, oui. Donc
le titre, encore une fois,
The Architectural Review.
Le titre de l'article.
En fait, c'est pas un article, c'est deux numéros du mensuel qui ont été consacrés à ce phénomène.
Donc, ah, ok,
une utopia.
Carrément. Donc ils ont consacré deux numéros entiers. Ouais. Ouais. À ce phénomène, voilà. OK. Donc, ils ont l'attention du monde de l'architecture avec ces deux numéros, sûrement. On y reviendra. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Au plaisir de se reparler prochainement d'aménagement du territoire et d'architecture.
Ben, ça m'a fait grand plaisir, Alexis.
À bientôt.
Au revoir.